Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Olicard et bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe, enregistrement les mardis, les vendredis, en direct sur Storm, en temps normal, ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, où vous pouvez réagir dans le chat directement. D'ailleurs, bonjour à Pascal VM qui dit enfin de retour en live, et ben oui, et enfin de retour avec toi Pascal, et diffusion dans la foulée les mardis, les vendredis à 13h maximum sur toutes les plateformes de podcast, c'est-à-dire où vous êtes en train d'écouter actuellement, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Où est à laisser votre plus belle note, c'est aussi ce qui fait vivre ce podcast. Sommaire aujourd'hui, les questions ne restent pas sans réponse. Le sujet du jour, donc, devenir sa propre niche dans un milieu mainstream. Ça paraît antinomique, mais c'est possible. Et ensuite, on terminera par le que dit le chat, puisque oui, donc enfin, on est en live. Alors, vous m'écoutez avec un son un peu homemade, comme au début de l'hippocampe, puisque je suis en direct depuis le téléphone. Parce que les Macs se sont mis à jour et que l'une des applications nécessaires pour vous parler avec la même qualité de son d'habitude, c'est-à-dire en passant par ma console, ne fonctionne pas. Ça fait une bonne vingtaine de minutes que je suis dessus, mais il n'y aura pas de solution alternative. J'enverrai, je pense, un petit message au créateur de Storm pour savoir s'il a trouvé une autre solution pour ça. Mais là, ça ne fonctionne pas malheureusement. Pascal dit que le son est très bien. Nina dit qu'on m'entend. Alors, ma foi, ça me va. On commence par les questions, ne reste pas sans réponse. J'ai deux questions qui ont été mises sur SoundCloud, c'est là où je récupère vos questions après. Il y a Gaël qui dit « Super, décidément, il y a de quoi écrire un livre de management. » C'était à propos des règles choquantes. Qui dit « Ces règles choquantes et les critères que tu proposes sont à mettre au regard des très nombreuses règles que l'on trouve aussi dans les grandes entreprises, surtout avec l'ère du pré-GAFA. » Et là, il parle des règles qui ne sont souvent pas lues ni appliquées, sans doute parce qu'il ne suffit pas d'édicter une règle pour que cela se transforme en culture. Alors, lorsque la règle découle de la culture qu'on est en train d'instaurer, elle est bien plus facilement respectée. Et la question est, comment en es-tu arrivé à formaliser ces quatre critères? En réalité, les quatre critères dont on parlait dans le dernier épisode, celui de mardi, c'est des règles de logique, de bon sens, et je ne pense pas être le seul à les avoir trouvées. Je pense qu'on peut les retrouver dans d'autres bouquins ou je sais pas, ou sur des sites internet ou des podcasts, des choses comme ça. Je pense qu'à un ou deux points près, on doit aboutir en fait au même résultat. C'est-à-dire, si tu édictes une règle, pourquoi tu l'as fait? En fait, c'est un peu comme dans les épisodes sur pourquoi tu lances un média social, par exemple. C'est le pourquoi tu le fais, quand tu le fais, comment tu le fais, etc. À partir du moment où tu le relis bien à un écosystème, ça fonctionne mieux. Il y a Ferrast aussi qui dit une vidéo sur le deep work serait vraiment cool et quels sont tes futurs projets avec ce podcast. Déjà, de pouvoir refaire des lives avec tout le son, parce qu'en gros, si je ne peux pas connecter la plateforme au live, je ne peux pas vous prendre en direct en live avec moi pour vous parler directement, ce qui était un peu le but ultime des futurs formats. Donc voilà, c'est ça la suite, mais le futur projet, c'est déjà juste de le continuer, c'est déjà pas mal. Alors, le sujet du jour, devenir sa propre niche au milieu du mainstream. Déjà, on va déterminer c'est quoi une niche pour une société. C'est son domaine d'expertise ou de vente ou de ce que vous voulez, qui est un domaine relativement restreint. Par exemple, la thématique du sport, c'est pas une niche. Le sport, c'est extrêmement large, ça touche énormément de personnes. Dans le sport, si on prend l'escalade, par exemple, on va toucher beaucoup moins de personnes. Et si dans l'escalade, on prend l'escalade dans une région précise, par exemple, l'escalade à Fontainebleau, eh bien là, on va encore toucher moins de monde. C'est-à-dire qu'au lieu de privilégier une quantité, on va chercher au contraire à cibler au maximum un endroit plus communautaire, on va dire plus restreint, parce qu'on va pouvoir répondre à des besoins, à des demandes beaucoup plus précises. Donc c'est ça une niche, c'est de refermer au contraire l'entonnoir et de ne pas viser forcément le grand public au sens immense du terme, mais au contraire de toucher en fait une spécialisation très restreinte. Donc, quel est l'intérêt, en fait, de vouloir proposer des services ou des produits dans une niche? Le premier intérêt, déjà, c'est peut-être parce que votre passion ou ce que vous voulez faire dans la vie appartient automatiquement à une niche. Mais le deuxième intérêt, il est, par exemple, sur Internet. Vous avez des mots-clés qui sont beaucoup plus accessibles si vous voulez faire de la publicité sur Internet. Vous imaginez bien que le mot-clé « sport » sur Google doit être extrêmement cher parce qu'il y a une grande demande pour une petite offre. Mais le mot-clé comme les mots-clés comme escalade ou escalade Fontainebleau pour reprendre mon exemple, bah forcément il doit y avoir moins de demandes. Donc vous allez moins dépenser en publicité. En plus, cette publicité, elle va atteindre une communauté plus qualifiée, qui est le deuxième intérêt de toucher une niche. C'est de donc quand on dit une communauté qualifiée ou un public qualifié ou un client qualifié, c'est quelqu'un qui est en adéquation pile poil avec ce que vous proposez comme produit ou comme service. Donc si vous arrivez à atteindre cette cible-là qui est qualifiée en fonction de ce que vous proposez, ben, il y a de grandes chances que vous puissiez vous rencontrer, en fait, matcher ensemble. Un exemple, par exemple, pour des partenariats que je peux faire moi sur ma chaîne YouTube, quelqu'un qui veut des vues pour des vues va plutôt aller voir quelqu'un comme Pierre Cross, comme Amixem, comme Michou, comme Squeezie, des gens qui brassent large et qui font beaucoup, beaucoup de vues pour toucher donc le grand public. Mais quelqu'un qui veut toucher des gens qui s'intéressent déjà au mental, au cerveau, parce que, je vais dire une bêtise, ils sortent un jeu de société sur la réflexion, ben, ils vont plus venir me voir moi, il y aura moins de vues que sur les autres chaînes que je viens de citer, mais par contre, ils auront un public plus qualifié, c'est-à-dire ils auront cette niche-là de personnes qui s'intéressent au divertissement lié au mental. Donc, je deviens plus fort, de fait, dans la négociation, puisque je représente exactement la cible de cette niche-là. C'est ça qui est intéressant, en fait, parce que vous n'êtes pas en train de faire du branding, en fait, pour que la terre entière se souvienne de votre existence. Vous êtes en train d'aller à la rencontre des personnes que vous ciblez le plus. Mais l'intérêt aussi, dans la vraie vie, c'est que, en travaillant dans une niche, en apportant de la valeur ajoutée à cette niche, c'est-à-dire une spécificité que les autres n'ont pas, vous allez ressembler à rien de connu. Donc, de fait, vous serez remarquable. C'est-à-dire que si vous tapez une niche, déjà, vous avez peu de concurrence. Si dans ce peu de concurrence, vous proposez quelque chose de différent, qui répond à un problème ou juste votre concept est différent dans le service ou dans le produit, vous allez forcément vous démarquer de fait dans votre existence, alors que dans le mainstream, c'est beaucoup plus... Donc, j'utilise aussi mainstream pour grand public, hein, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Et j'ai un exemple pour ça. Ben, c'est mon propre exemple, comme d'habitude. Donc, mon propre exemple par rapport au mentalisme. Et au mentalisme spécifiquement sur scène. Quand je me suis, moi, lancé sur scène... et dans mon métier sur le mentalisme, c'était dans la branche qui était rattachée à la magie. Donc, un magicien en plus chez les magiciens ou un mentaliste en plus chez le magicien, ça n'a pas tellement d'intérêt. J'ai pas une énorme valeur ajoutée à part le fait que ce que je faisais, c'était moi qui le faisais et pas quelqu'un d'autre. Donc, je cherchais en fait comment me démarquer pour pouvoir remplir des salles ou pour pouvoir avancer en tout cas dans ma carrière, dans le fait de pouvoir écrire, jouer et rencontrer un public. Et le plus simple pour moi, c'était de me dire, mais comme j'ai une proportion un peu naturelle pour faire des blagues et pour faire de l'humour sur scène, je vais plutôt le faire dans les théâtres. Et donc, c'est comme ça qu'à partir de 2010-2011, je commence à atteindre les théâtres et je me dis, je ne vais pas cibler les théâtres qui accueillent d'habitude des spectacles de magie ou de mentalisme, je vais cibler exclusivement le milieu humour. Donc la scène humour et les théâtres spécialisés en humour. C'est comme ça que j'ai joué à la Comédie des Trois Bornes. Et la Comédie des Trois Bornes programmée, en plus, avait une programmation plutôt sévère, c'est-à-dire ils ne programmaient pas tout et n'importe quoi. Et c'était vraiment que du one-man show ou que de la comédie, donc de la pièce de théâtre humoristique. J'ai galéré à les convaincre et ils m'ont pris et j'ai pu rester là-dedans. Et dès là, ça a fonctionné, c'est-à-dire que je remplissais ma salle plus facilement que les autres spectacles parce que le public qui venait pour voir des spectacles d'humour avait l'impression qu'il y avait quelque chose de différent d'habitude, c'était le cas d'ailleurs, et donc venez ne serait-ce que par curiosité voir mon spectacle. Et c'est exactement ce que j'ai fait ensuite par la suite en atteignant le théâtre du Point-Virgule, théâtre du Point-Virgule qui historiquement, depuis sa création, n'avait jamais programmé quelque chose qui se rapproche de près ou de loin au mentalisme. Et pour l'anecdote, Antoinette Collin m'avait dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais, mais malheureusement, ils ne pourraient jamais me programmer. J'ai fait 2 ans là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi l'Olympia ou qu'on va faire cette année le Zénith, qui n'ont jamais accueilli de mentalistes. Mais parce que c'est un circuit, en fait, où les mentalistes n'étaient pas ou étaient peu. Enfin, non, n'étaient pas. Je crois vraiment qu'il n'y avait pas personne qui faisait mentalisme et humour comme ça dans les théâtres et dans les festivals d'humour. Du coup, je me suis présenté dans des festivals d'humour où évidemment, je gagnais pas de prix. Ou alors, si, j'ai remporté quand même des prix publics. Mais mon but n'était pas tant de remporter un prix que de m'intégrer de mieux en mieux à ce milieu-là, parce que de fait, dans mon milieu, en fait, je n'étais pas remarquable ou remarqué, mais dans ce milieu-là, j'étais automatiquement remarqué parce que je ne ressemblais à rien de connu dans ce milieu-là. C'est pour ça aussi qu'il y a des artistes comme Verino qui me programmaient systématiquement sur leur plateau. Je n'avais même pas besoin de regarder l'ordre de passage pour savoir quand je passais. Je savais que ce serait au plein milieu parce que ça apportait une respiration puisque c'était différent. Donc, c'était intéressant en fait. Au lieu d'apporter le mentalisme dans la magie comme ça se faisait d'habitude, j'ai essayé de l'apporter dans le milieu humour. L'idée, c'est de créer sa propre niche au milieu de quelque chose de mainstream, en fait, qui tourne déjà tout seul, parce que une niche dans une niche, c'est intéressant en soi, mais ça demande beaucoup d'efforts de communication, évidemment. Mais si on crée sa propre niche soi-même au milieu de quelque chose de déjà grand public, alors on crée des liens et des connexions qui nous assurent déjà une visibilité, en fait. C'est comme si on accrochait un nouveau wagon plein de couleurs, au milieu d'un train qui est déjà en marche avec une bonne locomotive qui est plutôt monochrome. En fait, on bénéficie comme ça d'un système déjà en place et déjà visible, et comme on a une couleur complètement différente, eh ben on se rend visible un peu automatiquement. Alors après, ça fait pas tout le boulot, évidemment, mais ça aide au moins à ressortir un petit peu du lot et à faire ressortir sa niche, surtout quand c'est une niche qui a été créée, parce qu'encore une fois, parce que si je garde mon exemple pour le mentalisme n'était pas vraiment une niche dans le milieu dans lequel il évoluait. J'aurais pas pu, je pense, avoir la même visibilité, en tout cas à l'époque, en faisant ça. Voilà pour les quelques points sur l'intérêt en fait, de créer sa propre niche au milieu d'un système, on va dire, déjà mainstream ou déjà grand public. Et quel est l'intérêt de le faire, surtout si vous ne connaissiez pas le concept de niche. Je me disais que ça pouvait être intéressant de parler de ça avec vous aujourd'hui, et puis ça répondait à l'un des commentaires que j'avais eu l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Dernière séquence, que dit le chat? Alors, combien êtes-vous dans le chat? Bon, on est pas full non plus, c'est intime aujourd'hui. Il y a Antoine Abaye qui dit « Concernant les règles choquantes des entreprises, les règles positives sont-elles plus impliquantes que les règles sanctions ?» En fait, il faut pas essayer d'étiqueter positif ou négatif sur sa règle, parce qu'une règle, en fait, c'est juste un guide, une valeur. Mais si tu te poses la question, est-ce que c'est une règle sanction, c'est que la règle est mal formulée. En fait, elle doit être neutre en soi, la règle. Elle dit juste, voilà comment on fonctionne. Mais si elle a un sentiment de récompense ou de punitive, c'est qu'elle n'envoie pas le bon message, en fait. En tout cas, c'est pas une règle choquante. Toujours Antoine qui dit « Existe-t-il un ratio, une règle pour définir la structure dans les coûts à mettre en place face à un public restreint, gain plus limité ?» Bah, là, ma foi, Antoine, c'est beaucoup trop large en fait comme question. Donc non, il n'existe pas forcément de règle ou de structure. Mais il y a une logique, en tout cas commerciale. Si je prends l'exemple, par exemple, toujours du mentalisme, on a des livres de mentalisme dans notre milieu et ils coûtent très cher par rapport aux livres normaux. Ça peut aller à 150 euros pour un livre de 200 pages, par exemple. Donc, c'est extrêmement cher. Pourquoi ? C'est pas que pour la qualité du contenu, c'est parce qu'on est sur un public restreint, donc une économie restreinte. Donc, ça veut dire que si tu éditais demain un livre de mentalisme spécialisé en français, tu espères, s'il cartonne, faire 300 ventes. Donc, forcément, le prix est à la hauteur de ce public restreint, parce que l'auteur qui va éditer ça doit rentrer quand même dans ses coûts. Donc, tout est vraiment au cas par cas, en fait. Hein. Plus ta niche est serrée, plus, évidemment, ton coût va être plus élevé puisque tu ne peux pas compter sur de la masse. Ça, c'est la règle de base. Et enfin, Pascal qui nous dit « Très intéressant, merci. Clair que sur Internet, avoir une bonne niche est le seul moyen face aux géants comme Amazon, par exemple. » Exactement, mais c'est aussi une manière d'avoir une identité propre très rapidement. En fait, c'est beaucoup plus simple de se dire « moi, je vais aller voir telle personne pour un service ou telle boutique pour un produit parce que je sais qu'ils sont spécialisés là-dedans parce qu'ils font que ça. » Et quelqu'un qui offre trop de services différents ou qui vend de tout et de n'importe quoi, en fait, on passe chez lui par hasard ou par habitude, mais en tout cas, pas du tout pour répondre à un besoin très précis. Donc, ça démontre une expertise qui est peut-être fausse, hein, d'ailleurs, mais on a l'impression aussi d'une expertise en fonction de ça. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Merci d'avoir écouté l'Hippocampe. On se retrouve du coup mardi prochain. Ce sera en différé, donc ce sera à midi, tout pile, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser vos questions plutôt sur SoundCloud, c'est là où je les récupère. Et soutenez l'Hippocampe en vous abonnant là où vous m'écoutez, quelle que soit la plateforme de podcast, en laissant une belle note. Vous êtes les seuls ambassadeurs, ça soutient fort le format. Rendez-vous mardi à midi tout pile. À très bientôt. Ciao.